Les dessous de l'Infox, Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous et bienvenue dans les dessous de l'Infox sur RFI.
Les dessous de l'Infox.
En France, la campagne électorale pour la présidentielle d'avril 2022 bat son plein, mais force est de constater qu'elle n'échappe pas aux fausses informations. Des infox parfois relayées par les candidats eux-mêmes, c'est le cas par exemple de l'ancien polémiste d'extrême droite Éric Zemmour, qui n'hésite pas à se réapproprier l'histoire pour servir ses ambitions présidentielles. On en parlera avec l'historien Laurent Joly, auteur de l'ouvrage « La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs » paru aux éditions Grasset. La manipulation, le mensonge, la désinformation, un phénomène auquel n'échappe pas non plus YouTube. Dans une lettre ouverte, plus de 80 organisations de fact-checking demandent à la plateforme de vidéos en ligne des mesures plus efficaces pour lutter contre les fake news. On retrouvera Valdez Onanina, rédacteur en chef adjoint à Africa Check, basé à Dakar au Sénégal. Mais d'abord, les dessous de l'Infox, la chronique. Bonsoir Sophie Malibaud.
Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous.
Au Mali, un nouveau type de vidéo à visée propagandiste a fait son apparition, mixant faits réels, infox et appel à la haine envers tous ceux qui émettent des critiques envers le régime de transition. Et au-delà de l'apologie du colonel Assimi Goïta, ces publications partagent un même culte de la Russie et de ses soldats élevés au rang de héros libérateurs. Enfin, autre point commun, Sophie, l'anonymat qui entoure ces productions.
Impossible en effet de remonter à la source, de repérer les auteurs ou médias à l'origine de ces vidéos, sorte d'ovni de la galaxie de la désinformation en ligne. Tout est fait pour brouiller les pistes, un bref générique sans logo identifiable, l'apparition furtive d'une présentatrice un petit peu floue, prononçant ces mots « Bienvenue au journal Flash Information ». C'est en réalité un deepfake, ce qu'on appelle un deepfake, une image générée par intelligence artificielle, tout comme l'est d'ailleurs la voix off qui débite ensuite de façon monocorde le commentaire associé au diaporama.
Et concrètement, Sophie, ces images, qu'est-ce qu'elles montrent et quelles sont les explications fournies ?
Alors, en fait, les images qui défilent ne correspondent pas à ce qui est raconté. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire des captures d'écran à divers moments du diaporama, de la vidéo, et de procéder à une recherche d'image inversée. En rentrant ces fichiers dans les logiciels de recherche d'image, Google, Yandex ou TinEye, on obtient des informations sur leurs précédentes occurrences sur Internet et c'est comme ça qu'on réalise que l'on a affaire à une fabrication, une sorte de faux reportage qui vise uniquement à faire passer un message qui n'a pas forcément de rapport avec la réalité. Par exemple, l'une de ces vidéos récentes prétend dévoiler une opération secrète russo-malienne qui aurait permis de neutraliser 107 terroristes dans le nord du Mali, où l'on nous explique qu'en moins d'un mois, grâce à la collaboration avec les Russes, on est sur le point de mettre fin à la guerre. Mais les photos qui défilent montrent notamment des soldats de l'ONU dans la région de Mopti il y a 3 ans, et non pas des soldats russes. Quant aux soldats russes juchés sur un blindé, c'est une photo que l'on retrouve dans un rapport du Warsaw Institute, un think tank polonais, qui a publié une étude sur les mercenaires russes au service du Kremlin. Alors selon ce rapport, la scène que l'on voit se déroule en Libye et non pas au Mali. Et la photo est antérieure, d'ailleurs au mois d'août 19, date de la publication de ce rapport.
Y a-t-il malgré tout, Sophie, des éléments authentiques dans cette vidéo ?
Alors, la vidéo affirme se référer au communiqué du 17 janvier signé par le directeur de l'information et des relations publiques des armées du Mali, le colonel Souleymane Dembélé. Alors, il est facile de retrouver ce communiqué puisqu'il a été publié sur la page Facebook des forces armées maliennes. Vérification faite, le communiqué relate des événements qui se sont déroulés en zone sud et centre, et non pas dans le nord. Donc, c'est des opérations dans le cadre de l'opération Kele Tigui, où les forces armées maliennes ont effectivement remporté des succès. Mais il n'est question dans ce communiqué ni du nord Mali, ni d'une quelconque implication russe. Et le bilan global n'a rien à voir avec ce que prétend la vidéo.
Et alors, quel est l'agenda politique derrière ce narratif ?
Alors ça, au moins, c'est clair, puisque la voix off réclame comme le départ de Barkhane, des Européens de Takuba et de la MINUSMA. Un agenda qui se double d'ailleurs de menaces à peine voilées contre un certain nombre d'opposants, taxés de traîtres, criminels et autres satans accusés de faire le jeu de la France contre le peuple malien parce que ses opposants plaident pour un retour des civils au pouvoir.
Les dessous de l'infox.
Merci beaucoup Sophie Malibaud et à la semaine prochaine. Et si vous avez, chers auditeurs, des doutes ou interrogations sur des informations que vous souhaiteriez vérifier, vous pouvez joindre le groupe WhatsApp des Dessous de l'Infox. Voici le numéro, +33 6 89 07 61 09. À 3 mois de la présidentielle d'avril 2022 en France, la campagne électorale n'échappe pas aux fausses informations. Des infox parfois relayées par les candidats eux-mêmes, à l'instar de l'ancien polémiste Éric Zemmour, figure émergente de l'extrême droite. L'historien français Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'extrême droite et de l'antisémitisme durant le régime de Vichy entre 1940 et 1944, s'est intéressé à la façon dont le candidat se réapproprie l'histoire, la réinterprète pour servir son projet politique. Il publie un ouvrage intitulé « La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs » aux éditions Grasset et nous avons le plaisir de le recevoir.
On en parle.
Bonsoir Laurent Joly.
Bonsoir.
Alors d'abord Laurent Joly, quels sont les grands thèmes dont s'empare Éric Zemmour dans le cadre de sa campagne électorale ?
Il n'y en a qu'un, il le dit, c'est l'avenir de la France. La France est menacée de disparaître, la France est menacée par une invasion migratoire, par le péril islamique et lui veut sauver la France. C'est le seul thème de sa campagne.
Et alors justement, dans le cadre de sa campagne, Éric Zemmour met en avant certaines légendes historiques que vous avez cherché à déconstruire. Quelles sont-elles ?
Alors de manière générale, Éric Zemmour est un homme politique maintenant, mais c'est un écrivain, on le sait, un polémiste, qui s'est fait connaître notamment par la publication de livres à caractère historique, dans lequel il raconte l'histoire de France sous le prisme soit de son déclin, depuis 1968, depuis mai 68, la France est en déclin, ces 40 dernières années d'affaissement, mais plus globalement, l'histoire de France qu'il raconte, notamment dans « Mélancolie française » ou dans « Destin français », qui sont deux de ses livres les plus connus, et plus particulièrement dans « Destin français », paru en 2018, c'est une histoire de France qui est vraiment vue au travers de la menace de l'invasion islamique. Et plus récemment, Éric Zemmour a notamment repris ce qu'on appelle la thèse du glaive et du bouclier, qui est une thèse pétainiste des partisans du maréchal Pétain pendant la guerre et après la guerre, pour justifier la politique de collaboration de Vichy avec les Allemands. Les défenseurs de Pétain ont dit on n'a pas collaboré, on a voulu protéger. On était le bouclier. Et de Gaulle à Londres, la résistance, c'était l'épée, c'était le glaive. Donc Zemmour reprend cette théorie-là à des fins de glorification du passé de la France, parce qu'il considère qu'on salit l'image de la France en parlant de ces pages sombres, mais aussi à des fins politiques. Vous savez, en France, la droite et l'extrême droite sont divisées depuis des décennies, en particulier à cause du souvenir de la Seconde Guerre mondiale, à cause de ceux qui ont choisi le camp de Pétain, qui ont choisi le camp de la collaboration, et les anciens résistants, la querelle Pétain-De Gaulle.
Oui, il est même allé jusqu'à dire que Pétain avait sauvé les Juifs français. On le sait, évidemment, la politique de Pétain n'a absolument pas protégé les Juifs français dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Sur quel levier est-ce qu'il s'appuie, Laurent Joly, pour reconstruire l'histoire? C'est quoi finalement la méthode Zemmour pour falsifier le récit historique national français?
D'abord, ce que fait Zemmour, c'est qu'il a une grande capacité de synthèse, un esprit brillant, et donc qui va être capable comme ça de relier des événements entre eux, et qui peuvent être tout à fait marginaux, qui peuvent être tout à fait secondaires, mais il va leur donner un sens. Donc il arrive comme ça, à partir d'un fait anecdotique, qui peut être vrai, et à le généraliser. Donc il est très, très bon pour ça, et il est très bon aussi pour arriver à trouver des références qu'il va monter et qui vont permettre d'appuyer son propos. Donc par exemple, il va utiliser un livre qui est sorti en 1954, l'histoire de Vichy, et qui est en fait un livre qui est visé à qui n'était pas un livre d'historien, mais qui visait en 1954, c'est un livre de journaliste, et qui visait à unir les Français entre eux, qui avait une visée politique, et Zemmour va dire, vous voyez, ce livre, on l'a oublié. Ben, c'est ce livre qui dit la vérité. C'est pas ce qu'on nous enseigne depuis les années 60-70. C'est pas ce qu'on nous enseigne avec Paxton, l'Américain, qui est venu nous donner des leçons avec la France de Vichy. Donc, Zemmour fait comme s'il n'y avait pas de savoir scientifique accumulé depuis des décennies et va vous prendre des références qu'il va vous dire, ben, la vérité, elle est là, on vous ment, on vous a menti, et moi je vais vous sortir les bonnes références. Vous voyez, cette capacité à donner un sens, à généraliser à partir de faits tout à fait mineurs, mais il y a aussi parfois de la véritable falsification, c'est-à-dire qu'il va nier l'existence de certains faits, il va dire dans tel livre il n'y a pas telle citation, il va déformer une citation pour lui faire dire tout à fait autre chose de ce qu'elle dit. Donc il y a comme ça tout un ensemble de trucs et qui permettent à Zemmour de faire de l'idéologie, parce que foncièrement, Zemmour est un essayiste qui défend des thèses et qui va piocher comme ça à droite à gauche les éléments qui lui permettent d'aller dans le sens de ses théories politiques.
Oui, c'est vrai. Et ce qui est assez frappant dans le discours historique d'Éric Zemmour, c'est qu'il cite, et ça rejoint ce que vous dites, des sources qui ont toujours l'air très précises, en tout cas pour un public non averti. Toutes ces sources qu'il cite, elles existent.
Oui, alors ça, c'est son grand truc. Quand on lui dit, cette source, vous ne comprenez pas ce qu'elle veut dire, vous lui faites dire le contraire de ce qu'elle dit, ce qui est très souvent le cas, Zemmour va vous dire, ah oui, mais la source est authentique. Bah, évidemment, si vous pouvez prendre une citation et puis la couper de son contexte et lui faire dire autre chose. Donc l'essentiel de sa méthode, ça vise vraiment à monter en généralité à partir de cas mineurs, de donner une interprétation générale qui est toujours sous le prisme de la France est au bord de l'effondrement. La France va disparaître. La France doit être sauvée. Et toute l'histoire de France est vue comme ça par Zemmour.
Très concrètement, Laurent Joly, comment ne pas tomber dans le piège de ces mensonges lorsqu'on n'est pas historien, lorsqu'on n'est finalement qu'un simple citoyen, pas forcément averti, avec pas forcément une grande culture historique ?
Ben, y a pas vraiment de solution. Je pense que la plupart des gens qui n'ont pas beaucoup de culture historique et qui croient en Zemmour ne prêtent pas beaucoup d'attention à ce que Zemmour écrit sur l'histoire. Ça leur paraît pas important. Pour eux, ce qui est important, c'est ce que Zemmour dit sur l'avenir de la France, sur l'immigration, sur les choses qui les inquiètent. Et ils ont tendance à penser que c'est une lubie chez Zemmour. C'est une chose, il s'intéresse à l'histoire. Et je pense que les gens ne font pas le lien, parce qu'il y a une logique très forte entre les propos de Zemmour sur l'histoire et son projet politique. Pour moi, le lien très clair, c'est le suivant, c'est que banaliser les crimes du passé permet de faire accepter des mesures qui sont liberticides, qui sont contraires à notre état de droit pour aujourd'hui. Je pense que la logique politique, elle est là, et que on doit faire attention. Quelqu'un qui ment à ce point sur le passé, elle n'est peut-être pas en mesure de bien comprendre nos problèmes du présent et de nous apporter des solutions.
Et en tout cas, votre livre permet de rétablir certaines vérités historiques. Merci beaucoup Laurent Joly, auteur de La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite et les juifs, paru aux éditions Grasset. Et direction Dakar au Sénégal à présent, où l'on retrouve Valdez Onanina, rédacteur en chef adjoint à Africa Check. Bonsoir Valdez.
Bonsoir Clémentine.
Vous nous parlez aujourd'hui non pas d'un sujet de fact-checking, mais une information tout de même importante pour la communauté mondiale des fact-checkers en ce début d'année. C'est une lettre ouverte des fact-checkers du monde entier adressée au PDG de YouTube.
Oui, c'est une lettre ouverte adressée à Suzanne Vosges-Siki, le PDG de YouTube. Une lettre adressée le 12 janvier dernier par 80 organisations membres du réseau international de fact-checking, dans laquelle il est d'abord souligné que YouTube est l'un des principaux vecteur de désinformation en ligne dans le monde, ce qui constitue donc une préoccupation majeure au sein de la communauté mondiale des fact-checkers. Les signataires, dont Africa Check, ont demandé à YouTube de prendre des mesures efficaces contre la désinformation et d'élaborer une feuille de route concernant des interventions sur ses politiques et ses produits afin d'améliorer l'écosystème de l'information. Il a aussi été demandé à YouTube d'y associer les organisations de fact-checking indépendantes et non partisanes du monde entier.
Et concrètement, Valdez, quels sont les éléments factuels et actuels qui font justement de cette plateforme une préoccupation majeure pour les fact-checkers du monde ?
Eh bien, on ne peut pas tous les citer ou les identifier. Mais justement, dans cette lettre ouverte, nous rappelons que l'année dernière, nous avons vu des groupes conspirationnistes prospérer et collaborer par-delà les frontières, et avec en particulier un mouvement international qui est apparu en Allemagne, s'est développé en Espagne et s'est répandu en Amérique latine. Et pendant ce temps, des millions d'autres utilisateurs regardaient des vidéos en grec et en arabe qui les encourageaient à boycotter la vaccination ou à traiter leurs infections à la COVID-19 à l'aide de faux remèdes. Et au-delà de la COVID-19, des vidéos sur YouTube font depuis des années la promotion de faux remèdes contre le cancer et contre d'autres maladies. Et ce sont d'ailleurs des contenus qui connaissent beaucoup de succès auprès des publics africains. Les exemples sont donc nombreux et difficiles à recenser de façon exhaustive, comme je l'ai dit tantôt. Mais ce qui est important à noter également, c'est que nombre de ces vidéos et de ces chaînes YouTube sont toujours en ligne aujourd'hui et elles ont toutes échappé au contrôle des politiques de YouTube, en particulier dans les pays non anglophones et dans les pays du Sud. Ce n'est pas dire que YouTube n'a pas pris de mesures contre la désinformation, mais selon ce que nous voyons au quotidien sur la plateforme, nous estimons que ces efforts ne portent pas leurs fruits et par ailleurs, YouTube elle-même n'a pas produit de données de qualité prouvant l'efficacité de ces mesures.
Et quelles solutions ont donc été suggérées à YouTube par les fact-checkers ?
Il y a 4 principales solutions qui ont été soumises à la plateforme. D'abord, un engagement pour une transparence sérieuse concernant la désinformation sur la plateforme, parce que nous estimons que YouTube devrait soutenir des recherches indépendantes sur les origines des différentes campagnes de désinformation, leur portée, leur impact, et sur les moyens les plus efficaces de démystifier les fausses informations. La plateforme devrait également publier l'intégralité de sa politique de modération concernant la désinformation, y compris l'utilisation de l'intelligence artificielle et les données qui l'alimentent. Ensuite, au-delà du retrait des contenus pour non-respect des lois, YouTube devrait s'attacher à fournir un contexte et à souligner les infox. Et cela en superposant clairement ces informations-là, donc ces éléments de contexte aux vidéos qui sont concernées ou en fournissant des contenus vidéo supplémentaires. Troisième point, agir contre les récidivistes qui produisent des contenus constamment signalés comme étant de la désinformation, en particulier ceux qui monétisent ces contenus-là, que ce soit sur la plateforme ou en dehors de celle-ci, en empêchant notamment ces algorithmes de recommandation de promouvoir des contenus provenant de telles sources de désinformation. Et enfin, étendre les efforts actuels et futurs contre la désinformation dans des langues autres que l'anglais et fournir des données spécifiques à chaque pays et à chaque langue, ainsi que des services de transcription qui fonctionnent dans n'importe quelle langue à travers le monde.
Merci beaucoup Valdez Onanina du bureau francophone d'Afrique tchèque à Dakar au Sénégal. Je rappelle que cette lettre ouverte des fact-checkers du monde entier est disponible sur le site d'Afrique tchèque, africatchèque.org.
Merci Clémentine et à la prochaine fois.
Vérification faite.
Et c'est ainsi que se referment les dessous de l'Infox pour cette semaine, une émission réalisée par Claude Battista, que vous pouvez bien sûr réécouter en podcast sur notre site RFI.fr ou sur l'appli RFI Pure Radio.
Clémentine Pavlotsky.
Et très belle soirée à tous, à l'écoute de la Radio du Monde.
Au cœur du marché de Bujumbura
ou sur les bords du lac Tanganyika,
RFI à Bujumbura sur 96.1 FM.
Dans le quartier de Gracia
ou tout au long de la Ramblas,
RFI à Barcelone sur 105.3 FM.
Dans les rues de Pétionville
ou dans les allées du marché en fer,
RFI à Port-au-Prince sur 89.3 FM.
Pour connaître nos fréquences dans le monde, connectez-vous sur RFI.fr.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr. RFI, la sélection du mois.
Ibose.
On a tout compris, oui, depuis un moment. On vient de là où les rêves sont des cauchemars. Pourtant, on n'a jamais fini dans le trauma. Partout où l'on va se mettre à le faillage. Je crois qu'il est temps de leur montrer qui on est vraiment. Ivi, n'est pas.
Alain Pérez.
RFI.
RFI.